Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce jeudi 16 mars.
Yoon Suk-yeol rencontre Fumio Kishida à Tokyo. Le Japon lève les restrictions à l'exportation de trois matériaux semi-conducteurs vers la Corée du Sud. Travail forcé, les victimes s'engagent dans une procédure de recouvrement contre Mitsubishi Heavy Industries. Et enfin JCS, Pyongyang tire un missile semblable à un ICBM Hwasong-17. Le président sud-coréen a entamé aujourd'hui un voyage à Tokyo qui s'étendra jusqu'à demain, avec en point d'orgue un tête-à-tête avec le premier ministre japonais. Dans une conférence de presse qu'ils ont donnée conjointement au terme de leurs entretiens restreints et élargis, Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida en ont dévoilé les résultats. Les deux dirigeants ont alors déclaré être convenus de réchauffer les relations entre leurs pays et de consolider leur coopération dans divers domaines, économiques, sécuritaires ou encore culturels. Afin de concrétiser leur engagement, les deux parties ont décidé de relancer au plus vite divers dispositifs consultatifs bilatéraux au point mort, dont le dialogue stratégique entre leurs autorités économiques et diplomatiques. S'agissant de la levée des restrictions commerciales du Japon envers le pays du matin clair et de la réinscription de celle-ci sur sa liste blanche de partenaires de confiance, les deux États voisins ont promis de poursuivre leur dialogue étroit. Yoon et Kishida ont par ailleurs affiché leur convergence de vue sur la nécessité de faire front commun face aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. À propos du plan d'indemnisation des Sud-Coréens victimes du travail forcé dans l'archipel du temps de la colonisation annoncé par Séoul, le chef du gouvernement nippon a salué une mesure visant à rendre de nouveau sains les liens Séoul-Tokyo en proie à une situation extrêmement difficile. Il en a profité pour réaffirmer la continuité des positions des précédents gouvernements de son pays à l'égard du différend historique entre les deux nations. Si Kishida a alors rappelé brièvement la fameuse déclaration commune signée en 1998 pour ses condensieux entre les dirigeants de l'époque Kim Tae-jung et Keizo Obushi, il n'a pas fait mention des profonds remords et des excuses sincères inscrits noir sur blanc dans le texte. Pour sa part, le chef de l'État sud-coréen a affirmé que son face-à-face avec Kishida avait permis de poursuivre l'esprit de cette déclaration et qu'il constituait un premier pas vers une nouvelle ère des relations Séoul-Tokyo.
Tokyo a décidé de faciliter l'exportation des trois principaux matériaux semi-conducteurs vers la Corée du Sud après 3 ans et 8 mois. De son côté, Séoul prévoit d'abandonner sa plainte sur ses anciennes restrictions auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le ministère sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie a annoncé aujourd'hui que les deux gouvernements sont parvenus à cet accord lors du 9e dialogue tenu pendant 3 jours du 14 au 16 mars avec le ministère nippon de l'économie et de l'industrie sur les politiques de la gestion des expéditions. En conséquence, l'importation de ces composants nécessaires à la conception des semi-conducteurs et des écrans, à savoir la résine photosensible, le polyamide fluoré et fluoré d'hydrogène, sera de nouveau simplifiée après avoir été réglementée depuis juillet 2019. En outre, les deux voisins sont convenus de discuter étroitement afin de réintégrer la Corée du Sud dans la liste blanche du Japon. Un document regroupant les pays bénéficiant d'un traitement particulier lors des échanges commerciaux.
Dans le même temps, les organisations patronales représentatives des deux nations ont annoncé la création d'un fonds respectif pour le partenariat du futur. Ces deux groupements de chefs de conglomérats, le sud-coréen Chun Kyung-ryon et son homologue nippon Keidan Len, en ont fait part dans une conférence de presse tenue aujourd'hui. Ils ont alors évoqué le fait que le gouvernement de Séoul a décidé d'un plan de dédommagement des Sud-Coréens victimes du travail forcé dans l'archipel pendant la Seconde Guerre mondiale et que celui de Tokyo a ensuite salué une mesure en vue d'assainir les relations entre les deux nations. Dans la foulée, les deux organisations ont exprimé leur souhait de voir les deux voisins multiplier de nouveau leurs échanges dans divers domaines, politiques, économiques ou encore culturels, et de présenter les enjeux de leur fonds, se pencher sur les orientations que le pays du matin clair et celui du soleil levant doivent prendre dans le contexte du nouvel ordre mondial, mener les projets visant à résoudre leurs défis communs et promouvoir les échanges de visites de leur jeune génération.
relations Séoul-Tokyo toujours. Les survivants et les familles des victimes du travail forcé au Japon, qui ont gagné en 2018 leur procès contre deux entreprises japonaises, ont lancé hier une procédure de recouvrement des actifs conservés dans la péninsule par Mitsubishi Heavy Industries, l'un des deux groupes nippons épinglés. Il s'agit d'un acte pour montrer leur refus au plan d'indemnisation par un tiers proposé par leur propre gouvernement et demander des dédommagements directs aux firmes japonaises concernées. Yang Gundok et les familles d'une autre victime ont donc saisi la justice du pays du matin clair pour l'appeler à confisquer les actifs de Mitsubishi Heavy Industries et que MH Power System Korea, la filiale sud-coréenne du groupe Nippon, les dédommage. La société en question a un contrat de services informatiques avec Mitsubishi et lui verse des dizaines de millions de won, soit des dizaines de milliers d'euros par an. Selon les plaignants, cette somme devrait leur être allouée en guise d'indemnisation. Les avocats qui défendent ces victimes ont d'ailleurs confirmé que le tribunal sud-coréen avait ordonné en 2021 de confisquer les actifs de MH Power Systems Korea, une victoire judiciaire qui permet aux anciens travailleurs forcés de saisir encore une fois la justice pour demander de transformer ces actifs en argent réel. Petit rappel, la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné en novembre 2018 à Mitsubishi de dédommager les plaignants. Depuis, le groupe japonais s'oppose à la monétisation des brevets et marques qu'il possède en Corée du Sud.
Le plan du gouvernement de Séoul pour indemniser ses ressortissants victimes du travail forcé pendant la période coloniale du Japon mécontente beaucoup de Sud-Coréens, parmi eux les dirigeants d'associations civiles progressistes. Hier, à la veille du sommet sud-coréano-japonais à Tokyo, ils ont fustigé la politique japonaise de l'administration de Yoon Suk-yeol. Dans une conférence de presse tenue à Séoul, ils ont appelé leur président à réclamer le dédommagement direct et les excuses de la part de l'archipel lors de son tête-à-tête avec Fumio Kishida. Pour eux, la solution annoncée par l'exécutif est de pardonner les fautes des entreprises responsables de l'exploitation qui ne font pas leur introspection et de briser le verdict de la justice sud-coréenne qui les a ordonné en 2018 de verser une compensation financière à leurs anciens travailleurs. Mardi, une cinquantaine de professeurs de l'Université nationale de Séoul avaient eux aussi exigé de leur gouvernement qu'ils retirent le plan en question. Cela dit, le pouvoir entend faire front et se défend d'être obligé de choisir une telle option face aux menaces de Pyongyang et pour relancer la coopération économique avec le pays du soleil levant. Malgré cette logique, les organisations qui aident les victimes et les groupes civiques s'opposant aux mesures gouvernementales envisagent de poursuivre leurs manifestations même pendant le voyage du président Yoon à Tokyo.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Au dossier nord-coréen, la Corée du Nord a tiré aujourd'hui un nouveau missile balistique de longue portée. L'état-major interarmé sud-coréen JCS a annoncé avoir détecté ce projectile lancé vers 7h10 vers la mer de l'Est depuis la zone de Sunan près de Pyongyang. L'engin tiré avec un angle élevé est tombé dans cette mer séparant la péninsule coréenne de l'archipel japonais. Après avoir parcouru 1000 km, le ministère japonais de la Défense a estimé à 6000 km son altitude maximale. Le missile a volé pendant plus d'une heure en direction du nord-est depuis son site de lancement, avant de s'abîmer dans les eaux proches des frontières avec la Chine et la Russie. Les renseignements sud-coréens et américains procèdent en ce moment à une analyse exhaustive de sa nature, et ce en tenant compte de la récente évolution du programme balistique de l'État ermite. En attendant, le JCS estime qu'il s'agit d'un projectile similaire à un missile balistique intercontinental ICBM de type 77 et probablement pas d'un ICBM à combustible solide. Son chef Kim Sung-gam et le commandement des forces combinées sud-coréano-américaines Paul La Camera se sont réunis aussitôt après la nouvelle bravade de Pyongyang. Les deux généraux ont alors réaffirmé que les deux alliés allaient renforcer davantage leur posture de défense afin de faire face ensemble à toute menace du régime de Kim Jong-un.
Avant de s'envoler pour Tokyo ce matin, le président de la République a pris part à la réunion du Conseil de sécurité nationale après le nouvel essai balistique de Pyongyang. D'après un communiqué de presse diffusé par son cabinet, Yoon Suk-yeol a alors martelé que la Corée du Nord paierait cher pour sa provocation imprudente et insisté sur la nécessité de renforcer davantage la coopération sécuritaire avec les États-Unis et le Japon. Dans le même temps, le chef de l'État a ordonné de mener de manière irréprochable les exercices militaires Freedom Shield, actuellement en cours avec Washington. Et même après son arrivée à l'hôtel dans la capitale nippone où il est logé, le président Yoon a suivi l'évolution de la situation par visioconférence.
Et pour terminer, Yunseok-yeol a ordonné de modifier le projet gouvernemental portant la durée légale de travail hebdomadaire jusqu'à 69 heures. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le bureau présidentiel de Yongsan, en ajoutant que le président de la République trouve finalement anormal que le travail hebdomadaire dépasse les 60 heures. Selon le premier secrétaire présidentiel aux affaires sociales, le chef de l'État s'est dit navré du projet en question, qui n'a pas envisagé de plafond. Han Sang-hoon s'est alors engagé à écouter davantage l'opinion publique, notamment les voix des salariés de la génération MZ, tout comme des travailleurs non syndiqués. Le Parti du pouvoir du peuple PPP, la formation présidentielle, a déploré de fausses informations et la communication insuffisante, qui selon lui ont conduit à déformer l'objectif du projet gouvernemental. De son côté, le Minju, la principale formation de l'opposition, a pointé du doigt la coordination chaotique entre le gouvernement, le bureau présidentiel et le parti au pouvoir autour du plan sur la durée de travail hebdomadaire. Park Hong-geun, le patron du groupe parlementaire du mouvement de centre-gauche, a souligné que, bien qu'éminemment expliqué, le projet des 69 heures ne serait qu'un synonyme de surménage, voire de travail meurtrier. Il a ainsi demandé à l'exécutif et au PPP de réfléchir aux problèmes fondamentaux du projet, au lieu de seulement renforcer leur communication auprès des citoyens.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.